avec les paroles de ce chant dans notre esprit, avec un esprit d'adoration envers le Seigneur, nous allons ouvrir sa parole dans l'Épître aux Philippiens. L'Épître aux Philippiens, pour examiner quelques versets ensemble ce matin, pendant quelques minutes. Philippiens, chapitre 3. Philippiens, chapitre 3, à partir du verset 17, suivez avec moi alors que je lis jusqu'au verset 1 du chapitre 4. Philippiens, chapitre 3, verset 17, « Soyez tous mes imitateurs, frères, et portez les regards sur ceux qui marchent selon le modèle que vous avez en nous. Car il en est plusieurs qui marchent en ennemi de la croix de Christ. » Je vous en ai souvent parlé et j'en parle maintenant encore en pleurant. Leur fin sera la perdition. Ils ont pour Dieu leur ventre. Ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Mais nous, nous sommes citoyens des cieux, d'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ, qui transformera le corps de notre humiliation en le rendant semblable au corps de sa gloire, par le pouvoir qu'il a de s'assujettir toutes choses. C'est pourquoi, mes bien-aimés et très chers frères, vous qui êtes ma gloire et ma couronne, demeurez ainsi fermes dans le Seigneur, mes bien-aimés. Prions. Oui, Seigneur, nous te louons encore une fois pour ta parole et cette vérité que tu places devant nous, que tu touches notre cœur, Seigneur, que nous ne soyons pas indifférent aujourd'hui, ni à aucun moment vis-à-vis de ta parole, et que tu continues cette œuvre de transformation et de sanctification dans notre vie, et que tu reçois toute honneur et toute la gloire pour ce que tu feras. C'est en ton nom que nous prions. Amen. Lorsque nous lisons cette épître aux Philippiens, nous comprenons que Paul, il avait les Philippiens à cœur. Depuis quelques semaines et même quelques mois, nous examinons la première épître aux Corinthiens. Et il est évident que Paul, il aimait beaucoup les Corinthiens. Il voulait les voir grandir, il voulait les voir avancer. Mais nous voyons aussi que Paul avait cette église de Philippe à cœur. Et pour cause, souvenez-vous que c'est à Philippe que Paul et aussi Silas ont été battus, ont été jetés en prison. C'est là où ils ont chanté et loué Dieu au fin fond de la prison et Dieu les a délivrés. Ils n'ont pas pu passer beaucoup de temps à Philippe et pourtant ils avaient à cœur les bien-aimés qui étaient là. Et au chapitre 4, verset 1, cela ressort, n'est-ce pas? Vous avez vu cela. Mes bien-aimés, très chers frères, les expressions que Paul, il emploie, montrent manière évidente ses sentiments pour ses bien-aimés de Philippe. Et il va terminer ce verset 1, mes bien-aimés. Et au verset 17 du chapitre 3, il va commencer cette série de versets en disant mes frères. Et bien sûr, cela s'adresse à tous les chrétiens à Philippe, ce n'était pas simplement les hommes qu'il avait en vue, non, ce sont les femmes également. Et nous ne prendrons pas le temps ce matin de le voir, mais chapitre 4, il va commencer en parlant en fait de deux sœurs dans l'église qui avaient des difficultés et leur dit réglez cela selon le Seigneur. Donc Paul, il pensait à tous les chrétiens qui étaient à Philippe dans cette grande ville et nous voyons son attachement pour eux. Et déjà, même si c'était la seule chose qu'on allait voir, ça va être loin d'être le cas, mais même si c'était la seule chose que nous allions voir ce matin, déjà cet amour de l'apôtre Paul pour ces chrétiens doit nous servir d'exemple. Si jamais nous serions amenés à écrire une lettre à un frère ou une sœur, pourrions-nous avoir ce même langage? Mon frère, ma sœur en Christ, mon très cher frère, ma très chère sœur, avons-nous ce sentiment les uns vis-à-vis des autres? Paul l'avait, alors qu'il était loin, souvenons-nous, il est en prison en ce moment. n'avait pas de téléphone, il n'avait pas d'internet, il n'y avait pas toutes ces choses qui facilitent la communication de nos jours. Et cela faisait déjà un certain temps qu'il avait vu les Philippiens face à face. Et pourtant, ce sentiment est resté en lui, cher frère, chère sœur, mes très chers frères, mes bien-aimés. Et pour nous, aujourd'hui, alors que nous nous voyons pour la plupart, au moins une fois par semaine, pour certains c'est plus, mais nous nous voyons quand même assez régulièrement, avons-nous ce sentiment. Pouvons-nous dire, mes frères et sœurs de l'Église de Vérone, les chrétiens avec lesquels j'ai un contact sont vraiment mes bien-aimés. Je les aime de l'amour de Christ. Ils sont mes très chers frères, très chères sœurs en Christ. Posons-nous la question. Parce que Paul, il nous montre l'exemple ici. C'est Dieu qui a placé cet amour en lui. Et puis aussi pour les Philippiens, encore une fois, nous n'avons pas le temps de le voir ce matin, mais dans le chapitre 4, dans le chapitre 5, Paul va relever leur amour pour lui. Comment ils ont pourvu à ses besoins, comment ils s'intéressaient à sa situation, ils s'inquiétaient pour lui en prison. Et il leur dit, vous avez pu manifester cela, et j'en suis très reconnaissant. Donc c'était réciproque. Paul les aimait, mais aussi ils aimaient Paul. Quel exemple pour nous ? N'est-ce pas? Mais si l'exemple de Paul dans son amour est à suivre, au chapitre 4, verset 1, il dit, oui, mes bien-aimés, mes chers frères, mes chères sœurs, vous qui êtes ma joie et ma couronne, regardez, demeurez ainsi fermes dans le Seigneur. Nous voyons que, oui, Paul, il avait à cœur ses Philippiens, il voulait les voir grandir, il était reconnaissant envers le Seigneur pour ce qui se passait parmi eux, mais il avait une crainte. Il a dit, oula, il y a un danger, je dois leur écrire au moins pour ceci. Et ici, nous voyons, on va dire, la crainte, la mise en garde de l'apôtre Paul demeurait ainsi ferme dans le Seigneur. Alors, ce qu'il dit ici, assez intéressant. Déjà au début du verset, c'est pourquoi. Pourquoi? C'est la fin de chapitre 3 que nous examinerons dans quelques instants. Mais c'est pourquoi. Et puis, il dit demeurer ainsi. C'est-à-dire, il y a un modèle à suivre, n'est-ce pas? Il dit demeurer ainsi. Donc, tout comme une chose ou une personne, eh bien, faites de même. Soyez de même, c'est ce qu'il dit. Demeurez ainsi, comme quoi? Semblable à quoi? Encore une fois, c'est la fin de chapitre 3, entre autres, qui nous le montre. Mais déjà, examinons ce premier verset, demeurez ainsi et ferme dans le Seigneur. Dans le Seigneur. Vous savez, nous pouvons être fermes, c'est-à-dire pas capables d'être bougés, solides, dans nos croyances vis-à-vis de certaines choses. Il y a certains qui sont fermes dans la croyance que la terre est ronde. Et pourquoi? Parce qu'il y a des images satellites qui nous montrent que, effectivement, la terre est ronde. Mais saviez-vous qu'il existe encore aujourd'hui des gens qui sont fermes dans la croyance que la terre, elle est plate? Savez-vous qu'il existe des sociétés qui sont dédiées à cette croyance que la Terre est plate? Cela me semble tellement ridicule, et pourtant ils sont entièrement convaincus de cela. Ils sont fermes dans leur croyance, et nous pourrions leur montrer toutes les images, tous les données scientifiques que nous voulons, ils ne vont pas bouger. C'est incroyable, n'est-ce pas? Ça nous fait rigoler un peu, on se dit, mais ils sont complètement fous. Dans les bandes dessinées Astérix et Obélix, ils sont fous, ces Gaulois, n'est-ce pas? Ils sont fous. Les gens qui croient à une telle chose. Et pourtant, ils sont fermes. Alors, pour le moment, je n'ai pas encore eu l'occasion de discuter avec eux. Je ne connais pas personnellement, mais j'ai entendu parler de ces groupes et je me dis, mais c'est complètement absurde. Et pourtant, ils demeurent fermes dans leur croyance. Et nous pourrions faire une liste de toutes sortes de croyances, de toutes sortes de thèses, de toutes sortes d'idées auxquelles les gens adhèrent. Et malgré tout ce que nous disons, malgré toutes les preuves, malgré toutes les données que nous vous présentez, malgré tous les arguments, ces personnes demeurent fermes dans leurs croyances. Et parfois, nous rigolons. Parfois, nous disons, ils sont tellement crédules, ils sont tellement têtus dans ce qu'ils croient. Et après de se poser la question, comment notre vie chrétienne, pourrait-on dire de nous que nous sommes aussi fermes dans notre croyance? Parce que notre foi en Jésus-Christ, notre foi dans la Bible est attaquée, n'est-ce pas? N'est-il pas vrai qu'aujourd'hui, les gens essaient d'avancer des arguments pour dire que notre foi en la Bible et en Jésus-Christ est démodée? C'était bien pour les gens du Moyen-Âge, les gens simples, les gens crédules, les gens qui avaient besoin de croire en quelque chose. Mais aujourd'hui, l'ère de la science, l'ère où l'homme est quand même beaucoup plus intelligent, l'ère où l'homme a quand même beaucoup plus de données. Il n'est plus d'actualité de croire dans ces choses tellement fantastiques. La Bible, un livre d'histoire, un livre qui relate certaines choses, mais un livre qui n'est pas du tout à prendre au sérieux. N'est-ce pas le langage que nous entendons aujourd'hui? La création en 7 jours. Vous rigolez ou quoi? Les gens vont vous dire. Et même, malheureusement, dans le monde chrétien, on essaye de remettre en cause la création. Le déluge. Les gens disent, mais le déluge, c'est pas possible. Vous croyez à une histoire, une fantaisie. Non, la Bible le dit. Jésus-Christ, oui, c'était un grand homme, mais un homme, quand même. Il n'est pas ressuscité des morts. Il est resté dans le tombeau. Il s'est évanoui. Les disciples seraient allés au mauvais tombeau, dans leur chagrin, dans leur désarroi. Ils se sont trompés de tombe. Ils ont vu des visions, ils croyaient voir Jésus-Christ. Ils voulaient tellement le voir qu'ils se sont fait une idée. C'est ce que les gens vont dire aujourd'hui. Et ils vont dire, ce n'est plus la peine de croire en la Bible. Peut-être que c'était bien à une époque, mais aujourd'hui, nous avons quand même des preuves, nous avons quand même la science, nous avons fait des avancées sociales. Et face à toutes ces attaques, face à un monde qui voudrait nous faire rejeter la parole de Dieu, et face à notre grand ennemi, Satan, qui voudrait aussi que nous jetions la parole de Dieu, que nous l'apprenions de temps en temps, c'est pas bien grave. Mais il plaçait toute sa confiance quand même. Il ne faut pas tomber dans le fanatisme, quand même. C'est ce que Satan voudrait nous faire croire. Et si nous ne faisons pas attention, nous, en tant que chrétiens, dans ce monde, nous courons le risque de commencer à croire ces mensonges. Nous courons le risque de commencer à être ébranlés dans notre foi. Et si ce n'est pas sur tous les points que j'ai mentionnés tout à l'heure, les gens vont dire, mais s'il y a un Dieu, où est-il? Tout le mal qui se passe dans le monde. Vous savez, juste cette semaine, un bateau qui venait d'Afrique et qui allait vers l'Europe, il paraît, au moment où on n'est pas très sûr, mais il paraît qu'on aurait jeté les soi-disant chrétiens par-dessus bord. On aurait demandé où sont les chrétiens, on les aurait jetés à la mer. Vous savez ce qui s'est passé au Kenya il y a une semaine ou deux. Ces hommes qui sont entrés dans cette université ont posé cette simple question, es-tu chrétien ou pas? Et si la réponse était oui, ils étaient tués. Et les gens vont se dire, mais où est Dieu? Si Dieu était là, il aurait fait quelque chose. Alors votre Dieu est impuissant, votre Dieu se désintéresse du monde. Et si nous ne faisons pas attention, nous commençons à dire, mais c'est vrai, Dieu, où es-tu? Qu'est-ce que tu fais? Et si ce ne sont pas les choses lointaines, peut-être que ce sont des choses beaucoup plus proches. La maladie, les difficultés, les épreuves, sorte de choses qui viennent dans notre vie. Et par moments, nous pouvons dire, mais Dieu, mais Dieu, nous exprimons le sentiment du psalmiste qui disait, bah, toute la nuit, je pleure. Mon lit, c'est là-haut. Bah, je pleure. Et je ne comprends pas. Et nous sommes un peu comme Job qui disait, Dieu, je veux te parler. Dieu, je ne te vois pas. Si seulement je pouvais parler avec toi, je pourrais supporter toutes ces choses. Mais Dieu, j'ai l'impression que tu fermes l'oreille et tu restes indifférent. Et Paul avait cette crainte vis-à-vis des Philippiens que eux aussi, ben, ils soient ébranlés. Que eux, ils baissent les bras. Que eux, ils ne tiennent pas ferme. Et il dit, chapitre 4, verset 1, demeurez ainsi ferme dans le Seigneur. Ce n'est pas parce que nous n'avons pas d'autres croyances, nous n'avons rien d'autre, et que parce que nous sommes en vous, nous avons besoin de croire en quelque chose, donc on s'attache à Jésus-Christ, parce qu'il n'y a rien, il n'y a rien d'autre, donc on se fait cette idée. Non, non, non. C'est que au début, et de manière continuelle, je m'attache à Jésus-Christ. Demeurez ferme dans le Seigneur. Comme vous le voyez ici, demeurer, on pourrait le traduire, continuer de demeurer. Ce n'est pas quelque chose qui se fait une fois pour tous. Ce serait formidable, mais Dieu ne l'a pas voulu ainsi. Nous croyons en Jésus-Christ pour le salut une fois pour tous. Jacques, il va le dire. Et puis, d'autres auteurs, oui, il y a cette foi transmise au sein une fois pour tous. La foi en Jésus-Christ, une seule fois. Nous n'avons pas besoin de renouveler cela. Par contre, ce que nous avons besoin de renouveler, c'est notre attachement jour après jour à Jésus-Christ. Parce que si nous ne le faisons pas, nous risquons de nous éloigner. Nous risquons d'être ébranlés. Et Élie demeurait ainsi ferme dans le Seigneur. Il n'y a pas d'autre appui qui soit capable de nous soutenir. Il n'y a pas d'autre personne ou d'autre chose dans laquelle nous pourrions nous confier. Non, demeurez ainsi ferme dans le Seigneur. Et si nous essayons de demeurer ferme dans une autre personne, ou dans une autre chose, dans notre croyance, à un moment donné, nous allons mourir. À un moment donné, cette personne ou cette chose va nous faire défaut. Et Paul, ici, écrit aux Philippiens, et il leur dit, tenez-vous, allez jusqu'au bout, tenez-vous, je devrai ainsi ferme dans le Seigneur, mes bien-aimés. Mais comme j'ai dit, oui, Paul donne ce commandement, demeurez ferme dans le Seigneur, mais il y a ce petit mot, ainsi, demeurez ainsi. Et il commence le verset en disant, c'est pourquoi, donc forcément, il renvoie à ceux qui précèdent. Et c'est là où il donne toute la base pour cette persévérance dont il parle ici. Parce que cette idée de demeurer, de lieu resté, c'est l'idée de persévérance. Et il dit, c'est sur la base de ce qui vient avant que nous pouvons et que nous devons faire cela. Et si nous remontons au verset 17, là où nous avons commencé notre lecture ce matin, Paul va dire, soyez tous mes imitateurs, frères. Donc, encore une fois, il est convaincu que ces chrétiens, sont ses bien-aimés, sont ses frères, participent à la même grâce, comme il va le dire dans d'autres passages, que lui-même. Et il dit, soyez tous mes imitateurs. Et Paul, ici, montre qu'il est un exemple, sans pour autant être égoïste. Mais il dit, j'ai maintenu le cap, je suis resté ferme jusqu'à présent. Il ne présume pas sur l'avenir, mais il dit, jusqu'à présent, j'étais fidèle, jusqu'à présent, je suis demeuré ferme. Et il dit, soyez mes imitateurs, frères. Puis il dit, et portez les regards sur ceux qui marchent selon le modèle que vous avez eu en nous. Et Paul relève ici qu'il y a des exemples. Il y a de bons exemples qui sont à imiter. Il y a les frères, il y a les sœurs en Christ qui ont persévéré et qui persévèrent encore. Et il est vrai, il y a de mauvais exemples. Il y a des gens qui ne sont pas de vrais frères. Il y a des gens qui se sont éloignés de Dieu, qui sont tombés dans l'erreur, qui ont dévié. Et cela nous attriste. Et peut-être parfois nous mettons trop l'accent là-dessus en disant bah, tous ces gens, ils ont échoué, tous ces gens se sont éloignés du Seigneur. Si eux, tous, ils l'ont fait, comment est-ce que moi je pourrais espérer continuer? Comment est-ce que moi je pourrais espérer demeurer, continuer pour le Seigneur? Mais Paul nous rappelle qu'il y a de bonnes raisons. Il y a des chrétiens, des frères et sœurs en Christ, qui ont persévéré. Et comme l'apôtre comme l'était aux Hébreux, peut-être écrit par l'apôtre Paul, peut-être pas, va dire au chapitre 12, puisque nous sommes entourés de ce si grand nuée de témoins, courons avec persévérance. Allons jusqu'au bout, parce que d'autres l'ont fait. Et au chapitre 11 de cet épître, aux Hébreux, l'auteur va relever un ensemble d'hommes et de femmes qui ont persévéré, qui sont allés jusqu'au bout, qui ont été agréables à Dieu jusqu'au bout. Et Paul, ici, dit la même chose. Oui, il y a de bons exemples. Paul dit, moi j'en suis un, mais non pas de manière égoïste, il sait que cela vient de Dieu. Il sait que s'il a pu persévérer jusqu'à présent, c'est grâce à Dieu. Comme il va dire aux Galates, ce n'est pas moi qui le fais, c'est la grâce de Dieu qui travaille à travers moi. Et lorsque parfois nous sommes devant cette tentation de baisser les bras, de dire, je n'en peux plus, je vois trop de mauvais exemples, de penser aux frères et sœurs qui ont persévéré. Mais cela implique que nous en connaissons. Cela implique que nous nous sommes renseignés sur les personnes, soit vivantes ou bien décédées, qui ont persévéré, qui ont eu un bon témoignage. D'où l'importance, déjà pour les chrétiens, de passer du temps ensemble, pour se connaître, pour savoir comment nos frères et sœurs ont pu demeurer fermes dans telle ou telle circonstance. D'où l'importance de lire les histoires d'hommes et de femmes à travers les siècles qui ont persévéré. Il y a un livre qui s'appelle Le livre des martyrs de Fox, que certains le connaissent. Et c'est un livre qui est à la fois très difficile à lire, parce que cela parle des martyrs, des quelques premiers siècles, des martyrs chrétiens, toutes les souffrances qu'ils ont endurées. Donc c'est extrêmement difficile à lire dans ce sens, mais c'est également une grande source de réconfort. Ces hommes et ces femmes, parfois âgés, parfois très jeunes, qui, devant la persécution, n'ont pas renoncé à leur foi, qui sont allés jusqu'au bout, qui ont été mis à mort, souvent par les juifs, brûlés vifs, mais pourtant, ils n'ont pas renoncé. Et combien de livres qui relatent la vie chrétienne d'hommes et de femmes de Dieu? Et combien nous avons besoin de revenir là-dessus, d'être encouragés. Bien sûr, pas la parole de Dieu. Je ne dis pas le contraire. La parole de Dieu remplit l'exemple d'hommes et de femmes qui ont tout du bon, qui sont allés jusqu'au bout. Mais aussi, de pouvoir s'inspirer d'hommes et de femmes que Dieu a utilisés à travers les siècles pour rester ferme. Et Paul dit, je suis demeuré ferme. Il dit, d'autres, à la fin du verset 17, portez les regards sur ceux qui marchent selon le modèle que vous avez vu en nous. Il pense peut-être à Timothée. Il pense peut-être à Silas, à Barnabas, à Tite. Tous ces hommes avec lesquels il a travaillé. Et il dit, regardez-les. Et de se poser la question, avec quoi est-ce que je passe mon temps? Parce que notre temps est très limité, vous le savez. 24 heures de la journée, nous dormons pendant quelques heures. Certains plus, certains moins. Et notre journée est consacrée à mille et une choses, parfois des les choses nécessaires, les choses bonnes, les responsabilités. Et du cours de notre journée doit être consacré à se fortifier dans la foi, par la parole de Dieu, mais aussi en se nourrissant de témoignages chrétiens, des hommes et des femmes qui sont allés jusqu'au bout. Parce que sinon, nous allons tomber dans ce piège de croire que tout va mal, que nous sommes un peu seuls au monde, ou que notre Église est seule à apporter ce témoignage. Nous pouvons tomber un peu dans le délire d'Élie, qui lui disait, ben, « Seigneur, enlève-moi la vie, je suis le seul, cela ne vaut plus la peine de travailler pour toi, j'ai tant travaillé pour toi, je ne vois pas du tout de fruits. » Et Dieu va rétablir la vérité, il va dire, ben, « Arrête-toi de t'apitoyer. » Tu n'es pas seul, non. Il y a des centaines de personnes qui n'ont pas encore prié le jour devant Baal. Je vais te donner encore un ministère, je dis à Élie. Mais Élie, il avait oublié que d'autres ont persévéré et que d'autres persévéraient encore. Et si nous ne faisons pas attention, malheureusement, nous pouvons détourner notre regard de ces bons exemples. Jésus-Christ, bien sûr, qui a été obéissant jusqu'à la mort sur la croix, mais aussi de frères et sœurs chrétiens dans la Bible et en dehors, à travers les siècles, qui ont persévéré. Et si eux, ils ont pu, par la grâce de Dieu, nous pouvons également. Jacques, il va dire, Élie, il était un homme de la même nature que nous. Pour lui, rien d'extraordinaire. Ce n'était pas un surhomme. Ces hommes, ces femmes, dans la parole de Dieu, n'avait rien de spécial en eux. Non, c'était Dieu qui nous a fait cela à travers eux. Et nous non plus, nous n'avons rien de spécial. Si ce n'est la grâce de Dieu qui travaille en nous. Et la même grâce de Dieu qui a été puissante dans la vie de l'apôtre Paul est puissante en nous. Et Paul dit, soyez mes imitateurs, soyez les imitateurs de tous ceux qui sont allés jusqu'au bout, de tous ceux qui ont persévéré. Nous avons ces modèles, ces exemples devant nous. Prenons-nous le temps d'apprendre leur histoire. Prenons-nous le temps de nous inspirer de leur vie. Nous pourrions faire toute une liste de la parole de Dieu déjà nous donne en Hébreux chapitre 11, une liste. Et puis, si vous voulez des recommandations sur des livres à lire, venez me voir après les cultes. Mais vous en connaissez déjà. Est-ce que nous prenons le temps de nous souvenir de ces personnes? Est-ce que nous prenons le temps de connaître davantage sur les frères et sœurs qui ont vécu à travers les siècles? Leur persévérance doit nous servir de modèle. Et c'est en regardant vers ces bons exemples que nous allons pouvoir tenir compte. Que nous allons pouvoir dire si eux, ils l'ont fait et que... Et si Dieu reste le même hier, aujourd'hui, éternellement, il les a soutenus, il me soutiendra. Face à n'importe quoi, face à n'importe quelle situation, face à n'importe quelle difficulté, face à n'importe quelle persécution, Dieu me soutiendra. Et c'est ainsi que je vais pouvoir dire, oui, je demeure ferme dans le Seigneur. Non pas dans mes propres forces, mais dans le Seigneur. Mais Paul ne s'arrête pas là. Au verset 18, le chapitre 3, regardez, il va faire le contraste. Parce que si au verset 17, il parle de ceux qui ont persévéré, ceux qui sont à imiter, verset 18, il va parler de ceux qui ne sont pas à imiter. Il dit, il en est plusieurs qui marchent en ennemi de la croix de Christ. Je vous en ai souvent parlé et j'en parle maintenant encore. Alors, cette expression qu'il va utiliser, ennemi de la croix de Christ, c'est quand même une expression très forte. Ennemi de la croix de Christ. C'est-à-dire des gens qui, de manière volontaire et de manière constante, se dressent contre Jésus-Christ et son œuvre sur la croix. Ils vont nier le salut en Jésus-Christ. Ils vont falsifier le salut. Ils vont annoncer quelque chose autre que la vérité de la parole et ils vont empêcher d'autres à croire en cette même parole. Paul le dit, il y en a plusieurs. Ce n'est pas juste un seul, mais il y a plusieurs. Et Paul, à bien des reprises, a dû faire face, que ce soit à Galate ou ailleurs, à des gens qui annonçaient un faux évangile. Et Paul, ici, met en garde les Philippiens. Il dit, d'un côté, il y a des chrétiens à imiter. Il y a des personnes sur lesquelles il faut prendre exemple. Mais en même temps, il y a des personnes qui sont à mettre de côté. Leur exemple est à rejeter, leur exemple est à éviter. Et Paul dit, ayez le discernement de savoir faire la part des choses, de savoir qui marche pour Dieu, de savoir qui est vraiment dans le salut, et puis de savoir ceux qui se dressent contre, comme j'ai dit, cette idée d'ennemi. C'est celui qui se dresse contre, et ici c'est contre la croix de Christ. C'est contre Dieu lui-même, puisque Jésus-Christ, il est Dieu. Et de reconnaître que dans notre société, il y a beaucoup qui sont ennemis de Dieu. Et telle était notre position avant d'être sauvés. Éphésiens chapitre 2. Paul va dire, nous étions, avant notre conversion, ennemis de Dieu. Et ces ennemis de la croix, en réalité, sont ceux qui ne sont pas encore convertis. Et Paul dit, il y a des gens qu'il faut imiter, les chrétiens, ceux qui suivent Dieu. Il y a ceux qu'il ne faut pas du tout suivre, les inconvertis. Et dans notre société, qu'est-ce que nous voyons autour de nous? Que ce soit à la télé, que ce soit sur Internet, que ce soit dans nos discussions avec nos voisins, nos collègues de travail, ils veulent que nous les imitions. Ils veulent que tout le monde aille dans le même sens. Ils voient les chrétiens comme les empêcheurs de tourner en rond. Ils voient les chrétiens comme les gens démodés, des gens simples, des gens crédules, et ils essaient de nous mettre la pression pour croire, d'agir et de penser comme eux, n'est-ce pas? Et Paul dit, ici, il faut avoir le discernement pour reconnaître ces personnes qui ne s'attachent pas à la Bible, c'est-à-dire les inconvertis, les ennemis de la croix de Christ. Et regardez le sentiment de Paul pour ces personnes. Il dit, oui, ils sont ennemis de la croix de Christ. Même si eux, ils ne le reconnaissent pas, c'est ceux qui sont en réalité. Et il dit, je vous en ai souvent parlé. Et j'en parle maintenant encore. Il leur avait déjà expliqué cela. Il le répète parce que c'est tellement important. Mais regardez, je vous en parle en pleurant. Oui, Paul pleurait pour les gens qui ne connaissaient pas encore Christ. Paul pleurait pour les ennemis de Dieu. Est-ce que nous avons ce sentiment? Lorsque quelqu'un qui se dit chrétien, ou lorsque quelqu'un qui est manifestement contre Dieu, est-ce que nous sommes attristés à un tel point de pleurer pour le salut de cette personne? Paul dit, nous sommes dans la vérité. Nous avons la parole de Dieu, nous croyons en Jésus-Christ, nous l'avons accepté par la foi. Et notre sentiment envers ceux qui ne l'ont pas encore fait ne doit pas être un sentiment de jugement, un sentiment que nous sommes meilleurs, mais il faut pleurer pour ces personnes. Parce que souvent, ils ne se rendent même pas compte. Et à ce moment-là, nous détournons notre regard de nous-mêmes et de tout le mal. Et nous tournons notre regard sur l'âme spirituelle de la personne. Et nous voyons que c'est quelqu'un pour lequel Dieu et Jésus-Christ est mort. C'est quelqu'un que Dieu aime. Et c'est pour cela que Paul dit, j'en parle en pleurant. Ces gens qui ne se rendent même pas compte, ils ne savent pas qu'ils vont vers la destruction, ils ne savent pas qu'ils sont ennemis de Dieu, ennemis de la croix. Que la colère de Dieu demeure déjà sur eux. Ils ne savent pas. Et à nous de leur annoncer cet évangile. À nous de pleurer pour les inconvertis. ce sentiment. Oui. Les gens qui ne sont pas à imiter, il faut faire attention, on ne les imite pas et pourtant on ne les rejette pas. Ce n'est pas qu'on n'a aucun contact avec eux, nous vivons dans le monde. On les conjure. Par contre, nous n'avons pas besoin de les imiter, au contraire, nous avons besoin de leur témoigner. Nous avons besoin d'avoir ce sentiment d'amour envers eux qui veut les voir sauvés. Et verset 19, Paul explique pourquoi ils pleurent. Leur fin sera la perdition. Les gens aujourd'hui croient de moins en moins à l'enfer. Et on le comprend. Qui veut penser au jugement éternel? Personne. Et pourtant, c'est une réalité. Paul dit, leur fin est la perdition. S'ils ne se convertissent pas, ils ont pour Dieu leur ventre. Ils ne pensent qu'aux choses terrestres. Ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur route. Et pour lui, ils sont dans cette optique. Ils ne se rendent même pas compte. Et pourquoi, voilà pourquoi je pleure, dit Paul. Je veux les voir sauvés. Je ne veux pas les imiter du tout. Je me préserve, mais en même temps, je leur témoigne. Et lorsque nous sommes à l'œuvre, en train de témoigner par amour pour ces personnes, pour les voir sauvés, à ce moment-là, nous sommes remplis des sentiments de Jésus-Christ. Comme Paul va dire au chapitre 2, ayez en vous ces sentiments de Jésus, qui était en Jésus-Christ, ces sentiments d'humilité, ces sentiments d'amour, d'obéissance. Et à ce moment-là, nous allons pouvoir demeurer fermes. Parce que nous voyons le vrai sort de ces personnes. Les gens, très souvent, pensent que cette vie est tout ce qu'il y a. On vit, on meurt, après c'est tout. Mais la réalité est tout autre. Et nous avons la vérité dans la parole de Dieu. Et il faut annoncer cela parce que les gens ne se rendent pas compte. Et ils doivent entendre. Et lorsque nous sommes à l'œuvre pour annoncer cette bonne nouvelle du salut en Jésus-Christ, à ce moment-là, nous pourrons tenir ferme. Nous sommes en train de tenir ferme, de demeurer dans le Seigneur. Dans les versets 18-19, Paul explique que le mauvais exemple est à rejeter, mais les personnes ne sont pas à rejeter. Donc, il faut pleurer. Il faut avoir cette pitié qui nous fait aller vers eux pour leur témoigner. Et puis, verset 20-21, Paul va terminer ce chapitre 3 avec cette merveilleuse vérité. Mais, et qu'est-ce que j'aime ce mot? Cela change tout. Contrairement à ceux qui vont vers la perdition, contrairement à ceux qui sont loin de Dieu, qui sont ennemis de Dieu, qui sont remontés contre Dieu, contre son évangile, contre tout ce qui appartient à Dieu, contrairement à eux, nous, dit Paul, nous sommes citoyens des cieux. Et tout comme le refrain de ce chant que nous avons chanté juste avant ce passage, nous vivons avec Jésus dans le ciel. Nous sommes citoyens des cieux. Et même si nous vivons ici pour le moment avec notre corps physique, en réalité, nous sommes déjà citoyens des cieux. Vous le savez, tous ceux qui ont la double nationalité ou qui n'ont pas la nationalité française, moi, ayant la nationalité américaine, mon passeport, il est américain, je suis citoyen américain. Et pourtant, je n'habite pas là-bas. Mais j'ai grandi là-bas et je n'habite pas là-bas. Je suis ici en France et n'ayez pas crainte, ce n'est pas que je désire retourner aux États-Unis. Non. Ma famille est là, mais Dieu m'a appelé ici. Et je suis tout à fait content d'être ici. Mais un peu de la même façon, notre passeport, notre carte d'identité ne dit pas la terre, la France ou quelque autre pays ici sur la terre. Non. En tant que chrétien, notre carte d'identité dit le ciel, le paradis avec Jésus. Et comme dit la parole de Dieu, nous ne sommes que passagers sur cette terre, des pèlerins. Et que nous vivions 70, 80, 100 ans, qu'est-ce que cela efface à l'éternité que nous passons avec Jésus-Christ? Paul dit, nous sommes citoyens des cieux. Et pourtant, nous vivons ici. Paul dit, nous vivons ici dans l'attente de l'espérance. Regardez, nous sommes citoyens des cieux, d'où nous attendons, donc nous attendons de ces mêmes cieux, comme, aussi comme sauveur, le Seigneur Jésus-Christ, qui transformera le corps de notre humiliation en le rendant semblable au corps de sa gloire, par le pouvoir qu'il a de s'ajouter, de s'assujettir à toutes choses. Et Paul dit, nous sommes dans cette attente, dans cette double attente, où d'un côté, nous attendons le retour de Jésus-Christ, mais nous attendons aussi cette transformation qu'il aura à ce moment-là. Et Paul dit, ceci nous distingue de toutes les autres personnes sur la terre. Ceux qui ont réellement reçu Jésus-Christ comme leur sauveur personnel, ont cette double attente, déjà de Jésus-Christ, mais aussi de cette transformation qui aura lieu à ce moment-là. Et le verset 21, qui transformera le corps de notre humiliation. Notre humiliation, ce corps de mort, comme Paul va l'appeler ailleurs, ce corps qui nous fait souffrir tant, n'est-ce pas? Par moment, nous souffrons. Loin de me comparer aux autres maladies dans ma vie, depuis hier, ça me paraît simple, je lutte avec les allergies. Hier, j'étais vraiment mal. Bon, c'est passagère et ça n'a rien à voir avec d'autres maladies extrêmement graves. Et pourtant, nous souffrons. Et que ce soit de petites choses, que ce soit des souffrances intenses, énormes, quand cela nous arrive, nous avons le désir d'une seule chose, c'est d'en être délivré. Et ce corps d'humiliation, ce corps qui se détruit, ce corps qui s'use, ce corps qui nous fait mal, notre espérance n'est pas dans notre corps, non. Notre espérance, c'est dans notre corps glorieux, notre corps céleste. Et nous attendons cette transformation qui aura lieu. Et Paul l'explique bien ici, il va rendre notre corps semblable au corps de sa gloire. Et comme Paul m'a expliqué aux Romains, nous serons transformés parce que nous le verrons tel qu'il est. Et il explique que ce sera par sa puissance. Il a le pouvoir d'assujettir toutes choses et c'est cette puissance qui lui permettra de transformer notre corps. Et aujourd'hui, les médecins sont capables de beaucoup de choses. C'est impressionnant ce que les médecins et la médecine arrivent à faire aujourd'hui. On fait des transplantations, on fait toutes sortes de remèdes. On parle aujourd'hui des membres ioniques, des mains, des bras, des jambes. C'est impressionnant. On remplace, il paraît maintenant, le cœur. Et l'homme est capable de remplacer le transformer jusqu'à un certain point. Mais un cœur artificiel, un jour, ça arrivera. Un cœur artificiel peut lâcher. Des genoux remplacés, un jour vont lâcher. Les bras, les mains, tout ce que l'homme va remplacer, un jour va lâcher. Mais le corps que Dieu nous donnera, quand Dieu le transformera, à ce moment-là, plus aucun mal. Plus rien se dégradera. Non, ce sera parfait et nous serons semblables à Jésus-Christ. Et avec une telle perspective, comment ne pas tenir ferme? Certes, il y a bien des difficultés dans notre vie. Il y a bien du mal dans le monde. La méchanceté de l'homme ne cesse de grandir. L'homme est vraiment sans frein lorsqu'il veut aller vers le mal. Et parfois, cela nous décourage. Parfois, nous sommes vraiment tristes, parfois, nous sommes vraiment abattus, et peut-être parfois, nous pouvons nous poser la question, est-ce que cela vaut vraiment la peine de suivre Dieu? Ne serait-il pas plus simple, ben, oui, de lâcher, peut-être pas complètement, mais peut-être un peu. Et à ce moment-là, il faut revenir à des passages comme celui-ci, où, en tant que chrétien, nous sommes commandés. Ce n'est pas simplement un encouragement. Ce n'est pas simplement « Ah, ce serait bien si ». Si vous y pensez, si vous avez le temps. Non, non, c'est un commandement de la part de Dieu par l'apôtre Paul. Et face à ce monde qui se perd de plus en plus loin de Dieu, il faut nous souvenir de notre espérance en Jésus-Christ, de tout ce que Dieu fera pour nous. Il faut se souvenir de ce qu'il a fait pour nous et d'autres chrétiens, l'exemple qu'ils sont pour nous. Puis il faut avoir à cœur le salut des perdus. Oui, ils agissent mal. Oui, ils sont dans le péché. Mais c'est parce qu'ils sont loin de Dieu. C'est parce qu'ils sont ennemis de Dieu. Et ils ne peuvent pas faire autrement. Nous devons être tristes à cause de cela. Et cela doit nous pousser à plus de témoignages. Et lorsque nous témoignons pour le Seigneur, à ce moment-là, nous devons faire. Nous avons l'exemple de l'apôtre Paul. Et s'il était le seul, ben ce serait déjà une grande chose. Mais Paul est loin d'être le seul. Il y a des milliers, voire des millions de chrétiens qui ont persévéré à travers les siècles. Prenons exemple sur eux. Et assurons-nous d'être un exemple. De se poser la question. Est-ce que quelqu'un d'autre peut regarder vers moi et ma persévérance par la grâce de Dieu et être encouragé? Ou est-ce que moi je vais me relâcher, ce qui entraînera peut-être le relâchement de quelqu'un d'autre? Paul savait que les Philippiens regardaient vers lui et qu'il devait aller de l'avant. Il devait persévérer par la grâce de Dieu parce que ces Philippiens regardaient vers lui. Et parce que Paul lui-même regardait vers Jésus-Christ. Lorsque nous revenons à ce verset 1, tout l'amour, toute l'affection de Paul pour les Philippiens, il leur dit demeurez ainsi ferme dans le Seigneur. Et nous pouvons ajouter, si vous permettez, de retourner vous-même. Paul ne limite pas cela à tel ou tel domaine. Et donc, tout le domaine, demeurez ferme. Peu importe la situation, peu importe la difficulté, peu importe parfois notre péché, peu importe la réaction de ceux qui sont en face, demeurez ainsi ferme dans le Seigneur. Inspirons-nous de l'exemple de l'apôtre Paul. Soyons obéissants à Dieu. Ça peut commencer aujourd'hui. Si nous nous sommes relâchés, nous pouvons recommencer aujourd'hui et continuer à être ferme dans le Seigneur. Que ce soit vraiment la prière et le désir de notre cœur aujourd'hui. Prions. Oui, Seigneur, nous te louons pour l'exemple de Paul que tu nous as laissé dans ta parole. Nous reconnaissons notre besoin. Dans cet exemple, nous reconnaissons notre besoin de ta grâce. Nous devenons vite découragés. Nous avons tendance à nous relâcher. Et, Seigneur, pardonne notre manquement, pardonne notre égarement de toi. Que tu puisses mettre dans chacun d'entre nous le désir de te rester fidèle en toutes circonstances. Que tu nous accordes toujours ta grâce pour le faire. Et Seigneur, que tu puisses recevoir toute l'honneur et toute la gloire pour ce que tu feras dans notre vie. C'est en ton nom que nous prions. Amen.